Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, le calme est revenu ce matin à Goma au nord Kivu après une agitation quasi généralisée causée par les coups de balles tirés hier par les soldats de la garde républicaine en plein centre-ville. Les véhicules de ces militaires a tamponné une femme et un bébé. Le gouvernement congolais adopte une série de mesures visant à lutter contre la vie chère dans le pays. Il s'agit notamment des taxes et redevances sur le maïs qui constituent la base de l'alimentation de la majorité des Congolais. Tenez, les mesures fiscales et parafiscales adoptées portent notamment sur la suppression de tous les droits, taxes et redevances sur le maïs et la farine de maïs. Notre invité est le porte-parole militaire de la MONUSCO. Le lieutenant-colonel Kedani Mensa s'exprime sur les opérations de la force de la MONUSCO cadrant avec le mandat de la protection des civils, notamment dans le territoire de Djougou, en Ituri. Mesdames et messieurs, bonjour. Au nord Kivu, la vie est revenue à la normale ce samedi matin dans la ville de Goma. Ce, après la panique quasi généralisée causée par les coups de balles tirés par les soldats de la garde républicaine. L'incident est survenu non loin du rond-point Signers lorsqu'un véhicule de la garde républicaine roulant à vive allure a tamponné deux personnes, dont un bébé. Pour l'instant, aucune autorité de la place ne s'est encore prononcée par rapport à cette situation. Le récit de Gabriel Ouaménia.
Toutes les activités socio-économiques ont repris ce samedi matin. C'est après l'accident qui a causé la mort de deux personnes. Les victimes tuées sont une femme et un bébé. Juste après l'accident, la Jeep de la garde républicaine impliquée dans cet accident a continué sa course pour s'effrayer un passage devant une foule en colère. Quelques éléments de cette unité spéciale ont commencé à tirer aveuglément en l'air. Les crépitements des balles, qui ont duré une vingtaine de minutes, ont créé une panique généralisée dans la ville. Les gens couraient dans tous les sens. Les magasins, boutiques étaient fermés, surtout au niveau de l'hôpital provincial. Le trafic urbain suspendu a repris quelques heures après les crépitements des balles. Au cours de la bavure, quelques personnes qui tentaient de fuir ont été blessées, les unes par balles et les autres par accident des motos qui les transportaient. Bien que toutes les activités ont repris ce samedi, aucune autorité de la place ne s'est encore exprimée au sujet de cet événement qui a plongé la ville dans un grand émoi. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Kapi.
Restons au nord Kivu. Les véhicules de transport en commun et ceux de transport de marchandises ne circulent plus sur la route Beni-Kanyabayonga depuis près de deux mois. Le trafic routier est totalement interrompu entre le nord et le sud de la province en raison de l'occupation du territoire de Rutshuru par les rebelles du M23. Cette situation perturbe gravement le fonctionnement de plusieurs agences de transport à Beni. La plupart des chauffeurs qui utilisaient l'axe Beni-Kanyabayonga se sont réorientés vers l'axe Beni-Kassindi. André Kitenge a rencontré quelques chauffeurs ainsi que leurs responsables. Voici son reportage.
Au parking de l'association des chauffeurs du Congo ASECO, situé sur l'axe routier Beni-Kassindi, l'atmosphère est morose. Les chauffeurs expriment leur mécontentement face à la baisse significative du nombre de clients. Claude Kisokero, un chauffeur touché par la situation, explique.
Maintenant, je me rends plus sur cet axe de Beni-Goma à la suite de la guerre qui prévaut dans la région. Ce qui nous bloque plus dans cette situation, c'est le M23 qui est à la base de l'arrêt du trafic sur cet axe routier de Goma. Depuis là, nous les chauffeurs de cet axe routier, nous souffrons beaucoup faute de travail. Ce n'est plus comme avant lorsque je me rendais sur l'axe de Goma.
Pour faire face à cette crise, ces chauffeurs se regroupent dans d'autres parkings, ce qui entraîne parfois des tensions entre eux en raison de la concurrence pour attirer les passagers. Jean-Romain Moindo, chargé d'alignement au sein de la SECO, témoigne.
Avec la plupart de nos collègues chauffeurs, nous nous concentrons sur l'unique axe et le nombre de passagers est réduit. Nous nous disputons parfois de passagers. Les chauffeurs de l'axe Beni-Goma, axe Beni-Bounia, sont obligés de venir s'associer à nous pour trouver quoi subvenir aux besoins de leur famille sur l'unique axe de Kassindi, l'unique voie ouverte ces jours.
André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Merci à vous, André Kitenge, pour ce reportage. Pendant ce temps, à Ituri, les services de sécurité alertent sur l'infiltration des personnes qui seraient de connivence avec les rebelles du M23 dans les localités lacustres et les territoires de Djougou et Irumu. Une dizaine de jeunes suspects ont été appréhendés vendredi à Chomia, en provenance de l'Ouganda. L'autorité provinciale instruit les services de sécurité à renforcer la surveillance à la frontière entre les deux pays. Une démarche soutenue par la coordination de la société civile qui demande à la population de dénoncer tous les suspects. Isaac Raymond.
Des rumeurs d'infiltration des hommes armés qui seraient des mèches avec les rebelles du M23 circulent depuis environ 2 semaines en Ituri. Parmi les suspects, des jeunes formés par des instructeurs rwandais vers Boa, proche de Chomia, ont été arrêtés la semaine dernière par des FARDC. Leur dossier est en instruction à l'auditorat supérieur militaire de l'Ituri. Hier vendredi, une dizaine d'autres jeunes suspects ont été appréhendés toujours à Chomia et les enquêtes sont en cours. D'autres suspects entreraient par Kaliabougongo vers la rivière Semili qui est dans le secteur de Bahema Sud, à la frontière avec l'Ouganda, dans le but de déstabiliser la province de l'Ituri, déclarent des sources officielles. Dans une note qui circule dans les réseaux sociaux, l'autorité provinciale a instruit les services de sécurité de renforcer la surveillance dans les localités lacustres. La société civile de l'Ituri demande également au gouvernement de collaborer avec les autorités ougandaises pour garantir la sécurité aux frontières entre les deux pays. Dieudonné Lossa.
Les agents des services de renseignement le long du lac Albert doivent être très vigilants de nous aider également à mettre la main sur ceux qui voulaient faire n'importe quoi dans le pays. Dans cette zone, il existe aussi la force UPDF de surveiller ces trousseaux qu'eux, ils couvrent.
Cette structure citoyenne demande également à la population d'aiguiser la vigilance et de collaborer avec les services de sécurité pour faire échec à l'ennemi. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Nous l'avons dit dans les titres, au cours du Conseil des ministres d'hier vendredi, le gouvernement a adopté une série de mesures visant à lutter contre la vie chère en RDC. Il s'agit notamment des taxes et redevances sur le maïs qui constituent la base de l'alimentation de la majorité des Congolais. Les mesures fiscales et parafiscales adoptées portent notamment sur la suppression de tous les droits, taxes et redevances sur le maïs et la farine de maïs. S'agissant de la régulation du marché intérieur et de la surveillance et contrôle des prix, le gouvernement souminois décide d'évaluer et certifier sur PV les stocks existants et en cours ayant traversé les frontières, relever les prix en vigueur avant la mise en œuvre des mesures, contrôler les taux d'échange appliqués par les gros importateurs et distributeurs. On écoute un extrait du compte-rendu lu par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, extrait choisi pour nous par Alain Rung.
Il s'agit concrètement, 1. Des mesures fiscales et parafiscales. Elles portent sur la suppression de tous les droits, taxes et redevances sur le maïs et la farine de maïs. Il s'agit d'un total de 24 actes, dont certains sont supprimés, d'autres réduits de 5%, 25% et 50%. Des mesures de régulation du marché intérieur et de la surveillance et contrôle des prix consistent à évaluer et certifier sur PV les stocks existants et en cours et en traversée les frontières. Relever le prix en vigueur avant la mise en œuvre des mesures. Contrôler le taux d'échange appliqué par les gros importateurs et distributeurs. Faire respecter la réglementation sur les circuits des distributions et les cumuls de marges bénéficiaires, cumuls de fonctions. Dissocier les charges du chargeur à fretteur et celles de l'importateur dans le cas où c'est le même opérateur et éviter de répercuter les charges qui incombent au premier dans la structure des prix du second.
Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Rendons-nous au Kassai oriental où la route nationale numéro 2, axe Mbujimayi-Kabinda-Mbanga, longue de 280 km, sera bientôt réhabilitée et modernisée dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport PACT, financé par la Banque mondiale. L'entreprise China Jiang International Corporation s'est déjà déployée dans la localité de Kusu, à Kwadi, dans les territoires de Katanda, avec quelques matériaux. Des explications à Mbujimayi avec Esther Ndalafina.
Dans le territoire de Katanda, l'entreprise China Jiang International Corporation, CJIC, s'est déjà déployée il y a plus d'un mois en Kwadi, non loin de la localité d'Nkusu, sur la route qui mène vers le pont Kalelu. Elle y installe progressivement sa base logistique. Les responsables de cette entreprise ont annoncé cette semaine à l'autorité provinciale les débuts de travaux de réhabilitation et modernisation de la RN2 au mois de septembre prochain. Il consiste à l'élargissement et la modernisation de la route. Et ça sera pour la première fois que cette route accueille l'asphalte. Pour ce faire, Daddy Noël, consultant firme chargé de surveillance des travaux et de bitumage de la route, est aussi sur place pour le contrôle de qualité. Au niveau de la province de Lomami, une autre base logistique est en pleine installation. Ce projet de 52 mois permet de désenclaver totalement la province de Lomami et de relier la ville de Kabinda à celle de Mbujimayi. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Cette autre nouvelle, le coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC a rencontré ce vendredi à Kolwezi la gouverneure du Lualaba. Bruno Le Marquis et Fifi Masuka ont parlé entre autres du plan de développement du Lualaba et de la collaboration entre cette province et les agences du système des Nations Unies qui l'accompagnent dans cette visite. C'était avant qu'il ne visite l'université de Kolwezi, nous dit Jean Gando.
Au cours de cette rencontre, la gouverneure Fifi Masuka a brossé le plan de développement de la province et ses priorités, sans oublier les différents chantiers ouverts et qui vont continuer avec son nouveau gouvernement. Dans le prochain programme qui est en cours d'élaboration, un accent particulier sera mis notamment sur l'agriculture, l'éducation, la construction des infrastructures, la sécurité et autres, a-t-elle indiqué. Pour plus d'efficacité de travail des agences du système des Nations Unies, la gouverneure du Lualaba a plaidé pour qu'elle s'installe aussi physiquement dans sa province afin de participer régulièrement aux discussions sur la planification et la définition des priorités de la province. À en croire Bruno Le Marquis, dans leurs échanges, ils ont aussi évoqué la situation des enfants dans les sites miniers, mais aussi celle relative à la présence des réfugiés dans la province, mais également la problématique de leur inclusion. Fifi Masuka et ses interlocuteurs se sont convenus de mettre sur pied un cadre de concertation régulier pour avoir des échanges afin que les agences du système des Nations Unies soient au courant des priorités de la province et du plan d'action du gouvernement, ce qui leur permettra d'évaluer le niveau de leur intervention. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Nous sommes au Maniema. En réponse à la recrudescence des cas de rougeole, l'ONG Médecins Sans Frontières, MSF, a vacciné près de 70 000 enfants de 6 mois à 9 ans contre cette maladie dans la zone de santé de Kampene. C'était lors d'une campagne menée pendant 37 jours entre fin mai et début juillet 2024 dans 18 aires de santé de la localité de Kampene. MSF affirme que d'autres zones de santé sont confrontées à plusieurs défis sanitaires dans la même localité et n'ont pas d'aide humanitaire. Autres maladies comme le paludisme et les maladies respiratoires sévissent dans cette zone de santé. Florence Kizalunga pour plus de détails.
Selon les communiqués de presse de MSF, en plus de la rougeole, les équipes MSF ont également vacciné à Kampene plus de 12 000 enfants âgés de moins de 2 ans souffrant de la pneumonie, la diphtérie, les tétanos, la coqueluche et l'hépatite. Au cours de cette campagne de masse, MSF a atteint une couverture vaccinale de 93% des enfants atteints par la rougeole et de 82,4% des enfants ayant besoin des antigènes. Malgré l'organisation d'une vaccination de masse en septembre 2023 dans la province du Maniema, de nombreux cas de rougeole ont été signalés par le ministère de la Santé depuis 2024, non seulement dans la zone de santé de Kampene, mais aussi de Kunda, Kabambare, Salamabila, Kindu, Kailo et Kibombo, déplore Justin Bazibouhe, épidémiologiste de MSF au Maniema et Sud Kivu. Selon ces médecins, certains parents ne signalent pas la maladie. Ils considèrent que la rougeole est une maladie culturelle et qui nécessite des soins tout aussi traditionnels. Ce qui pose un problème lors de l'évaluation de la porte de la recrudescence de la maladie, renchérit-il. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Le Mwami Kabare Rugemaninzi a été conduit à sa dernière demeure hier vendredi. Il repose désormais au caveau royal de Bushi à Chirunga, dans les territoires de Kabare au sud Kivu. La cérémonie a drainé une foule immense venue de tous les coins de la RDC. Le gouvernement, l'Assemblée nationale ainsi que l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, dont il était le président, ont aussi participé à ses funérailles. Témoin de l'événement, Jean Kassami.
Les rois et morts vivent les rois. M'ont entendu sur toutes les lèvres des différentes personnalités qui ont pris la parole.
Sa Majesté va nous manquer, mais ses souvenirs resteront bien vivants dans nos cœurs et dans nos vies. Il a été notre modèle, notre héros vivant, et il le restera.
La mort du Mwami Kabare laisse un vide à la République démocratique du Congo, mais aussi à l'Afrique tout entière.
Il a incité beaucoup de gens à s'intéresser aux affaires de la bonne gestion de la République. C'est là toute la richesse de l'héritage que nous a laissé notre grand Mwami. La transmission de ses valeurs humanistes, ses idées, sa force et ses passions.
Vital Kamerhe, à la tête de la délégation venue de Kinshasa.
Vous avez honoré notre grand Mwami Désiré Kabare. Majesté, nous vous disons merci. Nous devons continuer à cultiver ces valeurs cardinales qui caractérisent finalement l'humanisme.
La mutuelle de Bashi Chinyabuguma organise une cérémonie en mémoire de leur icône à Kinshasa le 24 août 2024. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le 10e et en principe dernier jour de mobilisation pour le mouvement contre la mauvaise gouvernance au Nigeria avait lieu ce vendredi 9 août. Contrairement au reste du pays, les rassemblements étaient réduits à Abuja en raison de la forte répression. Des organisations féministes ont choisi de prendre le relais. Deux femmes ont décidé d'organiser un sit-in à l'entrée du stade de Abiola à Abuja.
L'invité.
C'est le porte-parole militaire de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Kedani Mensa, nous parle des opérations de la force de la MONUSCO, cadrant avec le mandat de la protection des civils, notamment dans les territoires de Djougouani-Touré. Le lieutenant-colonel Kedani Mensa s'entretient avec Bernard Denyangi.
Lieutenant-colonel Kedani Mensa, bonjour.
Bonjour, monsieur journaliste.
Nous vous recevons toujours dans le cadre des opérations de la force de la MONUSCO. Nous allons commencer par l'Ituri, où nous avons appris que la MONUSCO a contribué à la libération d'un homme détenu par le groupe armé Codeco. C'était quand et dans quelles circonstances?
Merci, monsieur le journaliste. Le 30 juillet 2024, le groupe Codeco a arrêté un homme dans le village de Dera, situé à 23 km environ au nord de la base de MONUSCO, à Fataki, au sein du groupement de Djoukpa dans le territoire de Djougou. Cet incident a suscité beaucoup d'inquiétudes au sein de la communauté Dera, et qui nécessite une intervention urgente pour la libération de ce dernier. Sollicité, la force MONUSCO s'est engagée à la libération de ce dernier, et est ainsi que le 2 août 2024, elle a organisé une réunion avec les leaders villageois membres de la communauté Lindou autour du chef du responsable du village de Fataki. L'objectif principal de cette réunion était de négocier et de faciliter la libération de cet homme à travers une diplomatie constructive et communautaire. Grâce à cette stratégie basée sur le dialogue et la négociation menée lors des réunions avec les principaux dirigeants, l'homme détenu a été finalement libéré le 3 août 2024. Cette libération a non seulement atténué les préoccupations vives qui existaient au sein de la communauté, mais également a renforcé les relations communautaires, permettant ainsi de démontrer l'impact de la diplomatie et du dialogue dans les résolutions des problèmes dans les conflits.
Alors, à part ça, il y a aussi l'évacuation médicale des blessés civils que la force de la MONUSCO a conduite après l'altercation qui a eu lieu entre les factions de groupes armés Zaïre, dont d'ailleurs les meneurs ont été appréhendés par les membres du bureau local de la police nationale congolaise dans la région de Guina. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça?
Le 4 août 2024, la force de la MONUSCO s'est rapidement déployée à Guina. Après avoir reçu des alertes indiquant que des éléments du Zaï auraient encerclé le bureau de la police nationale congolaise dans la zone de Guina. En réponse et en étroite collaboration avec les FADC, la MONUSCO a investi les lieux pour dissuader les éléments du groupe Zaï et assurer la protection des civils. La patrouille de la MONUSCO s'est entretenue avec des résidents locaux et des agents de la PNC qui ont signalé qu'un affrontement avait eu lieu entre les deux factions au cours duquel deux personnes ont été blessées. La situation s'est envenimée lorsque les éléments du Zaï ont encerclé le bureau de la police nationale congolaise alors que celle-ci tenait d'appréhender les responsables de cet incident. Ayant aperçu la patrouille de la MONUSCO, les éléments du groupe Zaï ont commencé à se retirer des lieux. La patrouille a donc pris le contrôle du bureau de la police nationale congolaise pour la sécuriser. Dans le but de fournir une assistance humanitaire aux blessés, elle a facilité le transport des blessés en sécurité de Guina à la barrière de Iga. De là, ils ont été transférés de l'hôpital Nzi pour un traitement médical approprié.
Lieutenant-colonel Kedani Mensa, nous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité était interrogé par Bernard Denyangi depuis la ville de Goma. C'est la fin de ce journal coordonné par Askin Zigbia Tayoro sous la supervision d'Alain Rung. Jean-Claude Nsiala, Mwana Makengonswalu a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi était à la présentation. Merci et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.